Ndeschen, bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Galère 88.4.
Vous êtes bien à l'émission de Ndeschen.
Une émission où l'on parle de genre, de transidentité, de nos identités de genre. Alors, on va commencer par une série de petites citations. Alors, dans les années 70, Monique Wittig écrit « C'est l'oppression qui crée le sexe et non l'inverse. L'inverse serait de dire que c'est le sexe qui crée l'oppression, ou de dire que la cause, l'origine de l'oppression, doit être trouvée dans le sexe lui-même, dans une division naturelle des sexes qui préexisterait à, ou existerait en dehors de, la société. » Voilà, Monique Wittig explique que l'oppression systémique se fonde sur une exploitation économique, l'assignation des femmes au travail de reproduction de l'espèce, notamment. Judith Butler, donc quelques années plus tard, a écrit « Le genre désigne précisément l'appareil de production et d'institution des sexes eux-mêmes. C'est aussi l'ensemble des moyens discursifs et culturels par quoi la nature sexuée ou un sexe naturel est produit et établi dans un domaine prédiscursif qui précède la culture, telle une surface politiquement neutre sur laquelle intervient la culture après coup. Le genre serait donc ce qui construit le caractère fondamentalement non construit du sexe. » Donc voilà, Judith Butler nous explique que le genre doit sans cesse se répéter, se dire, qu'il doit être rejoué, que c'est un rituel qu'on nous enjoint d'effectuer, et que c'est cette injonction à la répétition qui en fait un rapport social comme construction et domination. Alors, plus récemment, en 2010, Gaël Rubin écrit qu'il faut distinguer l'oppression de genre et l'oppression de la sexualité. Elle dit « Le féminisme est la théorie de l'oppression des genres. Supposé par automatisme que cela en fait la théorie de l'oppression de la sexualité, montre une incapacité à distinguer le sexe du genre. Le sexe comme genre, d'une part, et le désir érotique, de l'autre. Le genre affecte la façon dont fonctionne le système sexuel. » Et le système sexuel a des manifestations spécifiques en fonction du genre. Mais bien que le sexe et le genre soient reliés, ils ne sont pas la même chose. Et ils forment le fondement de deux aires différentes d'interaction sociale. En 2010 toujours, cette fois Gaël Peterson, dans Femmes en flagrant délit d'indépendance, écrit « Aussi commune que soit leur lutte au sein des régimes hétérosexistes, les garçons manqués de sexe féminin et les garçons manqués de sexe masculin n'occupe pas la même position sociale, la même position dans la hiérarchie sexe-genre. Ils sont confrontés à un ensemble très différent de contraintes sociales. De même, les hommes et les femmes qui vendent des services sexuels n'enfreignent pas les mêmes injonctions. Le sens et les conséquences de la transgression des codes de domination masculine ne sont en rien équivalents à la transgression des codes de soumission féminine. »
Voilà, du coup, on avait envie de commencer par quelques petites citations et par le partage d'une brochure qui s'appelle « Transsexuel incroyable », qui est un témoignage et des réflexions de Daniel Boccetti et Giorgio Cuccio, qui a été publié en Italie en 2007. Et ces deux personnes, donc, dans cette brochure, convaincues que leur genre n'est pas en adéquation avec le sexe qui leur a été assigné à la naissance, ont transitionné de F to M, de femelle to mâle, du féminin vers le masculin. Et Daniel Boccetti et Giorgio Cuccio témoignent de leur parcours et partagent leurs réflexions. Des réflexions sur la définition du masculin, qu'on voudrait les voir entièrement acceptées. Réflexions sur le privilège masculin, sur l'exotisation des personnes trans et sur leur expérience de la transition F2M. Cette brochure, elle est riche et très intéressante et du coup j'avais envie d'en partager quelques extraits qui traitent plutôt de la définition du masculin dans lesquels ils se sentent assignés à nouveau assignés. Nous, on navigue dans le masculin. Mais ce masculin tel qu'il est donné, c'est un univers dans lequel il est difficile de se déplacer, dans lequel je ne peux me reconnaître qu'en ayant une attitude critique. Il n'y a pas de réflexion sur le masculin. Les imaginaires et les modèles du masculin sont peu nombreux et classés par degrés. On est plus ou moins mâle par rapport à un idéal de super mâle. Donc, si tu essaies de produire une réflexion sur le masculin en en faisant quelque chose d'un peu plus féminin pour qu'il s'adapte à soi, en quelque sorte, tu le déclasses, ce masculin. Et là, les personnes ne comprennent plus. Et celles qui ont le moins de tact te le disent même explicitement. « Excuse-moi, mais tu as choisi de... » »« Oui, j'ai choisi de... » »« Mais je voudrais aussi m'exprimer sur comment. » »« Je n'ai pas choisi d'acheter un pack toute option. » Nous, en tant que personnes trans, on vit le privilège masculin depuis pas longtemps. Et on a senti presque tout de suite qu'il ne nous appartenait pas, ou qu'on ne le voulait pas. On revendique un masculin différent. On voudrait aussi ouvrir une réflexion sur les rapports à la chirurgie. L'expérience trans n'est pas forcément la recherche à tout prix d'un physique prédéterminé. Et le rapprochement avec le masculin ne consiste pas juste à avoir ou pas un certain type de physique. Si on n'élabore pas la diversité, on reste esclave de l'imaginaire dominant et en conséquence de l'anxiété d'adéquation. En tant que personne trans, tu dois spécifier de tes vécus. Que tes vécus féminins et masculins sont différents de ce qu'ils imaginent. De temps en temps, tu n'as pas envie de devoir expliquer pourquoi tu ne corresponds pas à l'image que les autres projettent sur toi, pour être toi-même. Quand tu assumes la responsabilité de la diversité, tu as l'impression que ça devient une condamnation. Tu es renvoyé constamment à la diversité. Les personnes relationnent avec toi en fonction de ta diversité, et pas en fonction de ta personne. C'est un réductionnisme qui se présente chaque fois que tu es en minorité. Pour les migrants, c'est pareil. Un peu de couleur sur la peau signifie la légitimation d'une série de préjugés et de comportements. Peut-être même avec de bonnes intentions. On ne relationne pas avec la personne, mais avec son exotisme, entre guillemets. Le mécanisme de la majorité est exactement celui-ci. Décider ce qu'est la normalité et appliquer une méthode quantitative d'évaluation pour comprendre qui peut rentrer dans la norme et combien il peut en rentrer. Le parallèle avec la condition des migrants est fort. Nous aussi, on peut être dans n'importe quel contexte, en train de parler du sujet le plus haut de gamme, mais finalement, ce qui intéresse les personnes, c'est l'exotisme. Mais l'opération de... Mais la thérapie hormonale, ça fait quoi? Mais quand tu étais... Ces questions arrivent systématiquement. Quand on nous pose ces questions, les individus font comme si c'était quelque chose de légitime. Dans le sens que personne ne se pose la question « Mais je suis en train de questionner une autre personne à propos de ses organes génitaux. » Ça aussi, ça rentre dans le privilège de la majorité, qui décide que ce qui est hors norme peut être soumis à une série de questions pour comprendre comment le situer. Ce n'est pas envisageable que ces questions puissent être inopportunes ou dérangeantes. Notre réflexion sur les genres part d'une base entièrement empirique. On est parti dans le parcours de transition à la recherche d'un plus grand bien-être personnel. Et on est tombé sur quelque chose de beaucoup plus gros en chemin, en le vivant dans notre chair. L'objectif était différent, mais on s'est retrouvé face à une situation pas prévue et inédite. Le désir de se rendre visible vient aussi de ça, pour témoigner de cette découverte. Le voyage à travers les genres a porté à la lumière tellement de contradictions et d'impostures dans le système que ça devient presque impossible de poursuivre son propre parcours de vie, comme si de rien n'était. Alors les textes et les témoignages de cette brochure transsexuelle incroyable, ils ont effectivement porté à la lumière contradictions et impostures de la binarité du genre. Et la colère contre cette division intériorisée, contre l'assignation à un genre, elle ne cesse de grandir. Donc pour retrouver cette brochure, vous pouvez aller sur, qui s'appelle donc « Transsexuel incroyable » de Daniel Bocchetti et Giorgio Tuccio, et vous pouvez la trouver sur infokiosque.net. Et je ne saurais trop vous en recommander la lecture. Born this way, was he always gay? Did he play with the boys back in elementary days? Did he do gay things like join the cheer team or play with Bobby dolls like the fucking queen? That's what they ask about me every day. Whispering to my friends, what's
was he born gay? No daddy in his home, he left mommy all alone. All gone, no contact through my cell phone. So mommy had to yeah, what the fuck she had to do? She bought me clothes and broke me in all the best schools. One day she looked me in my eyes and said the rest is up to you. What you get from life is what you get, boo. I love you, mom, and all that you've done. Right now I'm about to ride, have some fucking fun. We live in the projects where anything goes. From drugs to pimps and all that fucking assholes. I was a cute light skin red bone. I was on all the bad bitches was like, where you gone? Y'all can come, let's go have some fun. I had weed, drinks and pussy. Lonnie, you want some? Was he born this way? Was he always gay? Did he play with the boys back in elementary days? Did he do gay things like join the cheer team or play with Bobby Dolls like a fucking queen? Was he born this way? Was he always gay? Did he play with the boys back in elementary days? Did he do gay things like join the cheer team or play with Bobby Dolls like a fucking queen? I tried that pussy shit, I didn't fucking like it. Nope. I tried to kiss that bitch, I didn't fucking like it. Playing house and rubbing, I didn't fucking like it. I didn't fucking like it, I was done with it. Yeah. I tried to fuck that bitch, couldn't get down with it. It was wet and slippery and tastes disgusting. Mm-hmm. Pussy ain't for me, I leave that to my straight homies. Along with cigarettes, Patron, and all the fucking weed. I love how them boys be looking in their cars. Spinning dough on them bitches, making them bitches real scared. Riding with them bitches, fucking them real hard. Living a hood life and living it real long. Hey, that's right, I wanted to feel like that. I wanted a boy, boy, hood nigga to have my back. True. I like the way he looked and the swag that he had. Spitting real shit in his song. Bobby does like a fucking queen. Was he born this way? Was he always gay? Did he play with the boys back in elementary days? Did he do gay things like join the cheer team or play with Bobby does like a fucking queen? Was he born this way? Was he always gay? Did he play with the boys back in elementary days? Did he do gay things like join the cheer team or play with Bobby does like a fucking queen?
La transphobie dans sa violence n'épargne aucune des personnes transgenres, qu'il s'agisse de la violence psychologique, des méthodes psychiatriques censées les sauver, on y reviendra un peu plus tard, du contrôle des équipes médicales sur leur choix, leur manière de se représenter, toujours pour les sauver. Il s'agisse aussi des règles absurdes pour le changement d'état civil, stérilisation ou stérilisation et opération génitale, alors que sans ce changement, beaucoup d'aspects de leur vie, à l'origine simple, deviennent compliqués. Aller à la poste, par exemple. Des messages distillés par la société sur cette normalité à la con qui insuffle une mauvaise image de soi, une mauvaise estime de soi. Ce qui conduit beaucoup de trans à ne pas se soigner, à ne pas être informés des méthodes de prévention contre le VIH ou les autres IST et hépatites, à ne pas se lancer dans des projets. La transphobie, c'est aussi l'emprisonnement dû au harcèlement policier contre les prostituées ou aux réactions de survie des trans face à ceux et celles qui les agressent. La transphobie, c'est aussi les conditions mêmes d'emprisonnement qui conduisent souvent à la mort. Les femmes trans sont placées dans des prisons masculines. On pense en particulier à Chloé, dont on a déjà évoqué le combat. La transphobie, c'est le rejet familial, le harcèlement moral familial, en mode « on t'a pas rejeté, mais on te dit de la merde dès qu'on te voit ». La transphobie, c'est l'obligation de rester planqué, parfois dans d'autres villes, voire d'autres pays. La transphobie, c'est aussi le paternalisme des minables alliés ou pseudo-frères et sœurs dans des milieux politiques autres que simplement trans, avec des gens qui se sentent en droit de trouver que les personnes trans font trop d'histoires, s'ils les appellent par les mauvais prénoms ou pronoms, ou qui se sentent en droit de leur expliquer que ce n'est pas assez subversif de transitionner de telle façon, ou encore qui estiment que les vraies priorités ne sont pas les questions trans, et que du coup, c'est mal de se visibiliser comme trans. La transphobie, c'est aussi la perte d'emploi, la marginalisation au sein du monde du travail ou encore l'impossibilité de trouver du taf. La transphobie, c'est des moqueries, des agressions quotidiennes, dont celles qui se résultent parfois par la mort des personnes trans. Alors contrairement à une légende populaire, encore récemment réactivée, qui veut que ces questions n'intéressent pas les personnes même issues de l'immigration, il se trouve qu'un nombre important des trans assassinés sont des femmes trans non blanches, avec souvent un statut de migrante. Mais bon, peut-être qu'en tant que racisée, elle n'avait qu'à pas être visible, à faire dans la discrétion, comme dirait l'autre. Voilà, ce texte sur la transphobie est un extrait d'un texte qui vient du blog Chronique d'un nègre inverti, dont je vous recommande la lecture. Et je vais enchaîner sur une transphobie un peu plus intériorisée, dirons-nous. C'est un extrait d'une brochure, cette fois-ci. « Briser les préjugés et le travail de toute une vie ». Récemment, j'ai eu une expérience très instructive. J'ai découvert qu'une de ces femmes que je côtoyais depuis longtemps était une transgenre. Cette découverte me fait de la peine, car j'aime croire que mon système radar repère aussi bien les trans que les gays. Elle n'avait pas l'intention de me mentir, elle pensait que je le savais déjà. Étant donné tout ce que j'ai fait pour m'informer sur la transsexualité, j'ai pensé que cela ne ferait pas beaucoup de différence. Mais je me suis surpris à la regarder différemment. Tout à coup, ses mains paraissaient trop grandes, son nez était bizarre. Et que dire de sa pomme d'Adam ? N'avait-elle pas une voix un peu grave pour une femme ? N'était-elle pas terriblement autoritaire, exactement comme un homme ? Et mon Dieu, que ses avant-bras étaient poilus ! Quand je me suis surpris à penser cela, j'ai ri, même s'il y avait un peu de tristesse dans mon rire. Il est très difficile d'éradiquer la transphobie. Le genre n'est pas seulement un problème théorique ou politique. De tous les sujets personnels, donc politiques, celui-ci est le plus personnel de tous. La peur des trans est chez chacun directement liée à la peur de son moi, du sexe opposé. Voilà, c'est un extrait d'un texte de Pat Califia, donc un activiste trans. Donc on peut retrouver dans la brochure « L'activisme transgenre, démolir la clinique et mettre le feu à l'Institut de beauté », écrite en 97.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. He's fiercing my dreams, seizing my guts. He floods me with dread, soaking soul. He swims in my me and I cannot run now.
Lutter contre la transphobie, qu'elle soit déclarée entre guillemets ou plus intériorisée, c'est un des objectifs de l'association Outrans. Et du coup, là, qui définit un petit peu sa position transféministe. Du coup, on avait envie de vous faire partager le point de vue de cette association. Le point de départ de notre réflexion sur la convergence des luttes trans et féministes et leur articulation dans le terme transféminisme était le constat que la transphobie contre laquelle lutte notre association est un produit de plusieurs systèmes de rapports de pouvoir. Pour reconnaître la diversité des formes de la transphobie et pour y résister, nous nous sommes tournés vers les outils à la fois politiques et théoriques produits par le féminisme. Le courant du féminisme qui nous est proche et qui, selon nous, ouvre la possibilité de tisser des alliances politiques avec les groupes minorisés, est le courant dit de la troisième vague, qui interroge le sujet politique de « nous les femmes ». Outrans, dans sa pratique politique, part du constat que la transphobie est liée surtout au système de normes de genre et des sexualités issues de l'hétéronormativité. Ce terme définit un système de rapports de pouvoir qui produit divers modes de domination comme le sexisme, la misogynie, la transphobie, la lesbophobie, l'homophobie. L'hétéronormativité, qui est présente dans tous les aspects de notre vie quotidienne, tant au niveau social qu'institutionnel ou juridique, fonde une hiérarchie, un canon des styles corporels, des rapports économiques et des styles de vie reconnus et soutenus par la société comme normaux ou ayant de la valeur. À l'inverse, certaines corporalités, pratiques sexuelles, façons de nouer des relations et de manières de vivre sont définies comme pathologiques, anormales et déviantes, et sont fortement exposés à un ensemble de domination, de discrimination et de violence. Pour combattre la transphobie dans tous ses aspects, Outrans considère qu'il faut avoir des armes multiples, et le combat doit être mené sur plusieurs niveaux, en solidarité avec les autres mouvements sociaux. C'est pour cela qu'Outrans parle aujourd'hui de transféminisme, afin de mettre en valeur les stratégies politiques basées sur le principe de coalition. Plutôt que de mener une politique strictement identitaire, centrée sur un groupe social, sur un sujet politique bien défini, la stratégie de coalition cible les modes d'oppression dans toute leur complexité : le sexisme, le racisme, la transphobie, la précarité, le validisme, l'homophobie, la lesbophobie, etc. Au-delà des enjeux posés par la présence des trans au sein des luttes féministes, à Outrans, nous nous préoccupons d'apporter des outils féministes que nous développons au mouvement trans, qui demeure indifférent aux questions féministes ou qui demeure essentialiste. À notre sens, il est risqué de combattre la transphobie sans lutter en même temps contre le sexisme, la misogynie et l'hétéronormativité, la précarité, le validisme, sans la redéfinition radicale des notions de sexe biologique, de genre, de nature, de normes, etc. Outrans considère que la voie qu'ouvre le transféminisme est transversale. Elle est avant tout une vision des coalitions potentielles et à venir contre toutes les formes de domination, de discrimination ou de violence issues de l'hétéronormativité, du racisme, du sexisme, des nationalismes, du système carcéral, du capitalisme, en créant des alliances qui contribuent à décloisonner les luttes contre ces différents systèmes de domination. Notre lutte politique est une lutte solidaire, côte à côte avec nos alliés, féministes, travailleurs et travailleuses, du sexe ou pas du sexe, sans papier, personnes séropo, personnes racialisées, PD, gwyn, queer, précaires, etc. Côte à côte avec toutes les personnes dont les vies sont exposées au maximum aux effets très destructifs de l'hétéronormativité, du capitalisme, du sexisme, du racisme.
Alors on va désormais parler de l'approche psychiatrique et médicale des transidentités et tenter de faire quelques mouvements de brasse à contre-courant. Alors pour la médecine, pour la psychiatrie, ce qu'ils appellent le transsexualisme est une pathologie, considérée comme un désordre mental, un problème, un trouble. En France, depuis la fin des années 80, des équipes hospitalières composées de psychiatres, endocrinologues et chirurgiens se sont autoproclamées officielles et ont été validées par l'État pour assurer le contrôle de ces corps déviants. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM, Bible des psychiatres du monde entier, étiquette désormais les personnes trans comme atteintes de dysphorie de genre. Dans la classification internationale des maladies, y compris dans sa révision la plus récente, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, range le trouble de l'identité de genre dans les déviations et troubles sexuels. Le terme même de transsexuel ou de transsexualisme, de transsexualité, induit une confusion entre identité de genre et orientation sexuelle, entre la manière dont on se définit et la manière dont on définit nos attirances. Selon le modèle freudien, le parcours trans est une déviation comportementale, voire une sorte de perversion narcissique, comme l'est l'homosexualité masculine pour ce vieux Sigmund. Pour les lacaniens, il s'agit carrément d'une psychose, due au délire de ne pas être né dans le bon corps. La différence est perçue presque par tous et partout comme une pathologie. Et cela a une incidence énorme sur le quotidien des personnes transgenres. En France, comme dans de nombreux pays, pour pouvoir changer d'état civil ou pour avoir accès aux soins médicaux, les personnes trans doivent être diagnostiquées et suivies par de prétendus thérapeutes. On impose une étiquette de malade mental, ce qui signifie que la personne doit être prise en charge, soignée, selon un protocole précis auquel il faudra correspondre de A à Z, sous peine d'être éjecté, de devoir se débrouiller sans aide. Avec la pathologisation, les personnes trans sont niées en tant qu'individus. Ils et elles deviennent objets de laboratoire, sujets d'études, soumis au pouvoir de spécialistes et d'experts. Les manuels, les protocoles et les thérapeutes eux-mêmes nient la diversité des parcours trans et la multiplicité des identités de genre. Alors le fait de devoir se conformer aux attentes du genre auquel on nous assigne est une pression sociale que chaque être humain peut ressentir. Mais pour les personnes transgenres, cette injonction de se conformer à la norme est d'autant plus forte qu'elle est notamment l'une des conditions d'un accès aux soins ou aux démarches administratives. La plupart des médecins, des psychologues ou des psychiatres se transforment en véritables gardiens du genre lorsqu'ils et elles sont confrontés aux transidentités. Face à la nécessité du diagnostic, l'individu transgenre se retrouve dans la situation de convaincre ses thérapeutes cisgenres qu'il ou elle est suffisamment trans, alors que ceux-ci lui rétorquent « Nous ne sommes pas sûrs que vous êtes ce que vous dites être ». Il leur faut donc prouver qu'elles ont toujours été habitées par ce sentiment, incarner avec exactitude les symptômes de la dysphorie de genre ou du transsexualisme, tel que défini par le corps médical. Il leur faut aussi faire un choix dans cette binarité du genre, correspondre au présupposé culturel du genre par lequel ils ou elles se définiront ou seront définis. Il s'agit alors de correspondre aux stéréotypes ultra-normés de la femme au foyer ou du père de famille de séries télé. Les filles trans doivent se maquiller, s'habiller avec des vêtements féminins et sexy. Elles doivent ressembler aux clichés féminins de leur époque ou encore affirmer à leur psy qu'elles trouvent leur pénis horrible et moche. En France, on les pousse, pour le changement d'état civil, à subir une opération de réassignation sexuelle. Parce que bien entendu, une femme avec un pénis ne peut pas exister aux yeux de la morale. Les garçons trans, eux, se doivent d'accepter de correspondre à la masculinité dominante, à laquelle pourtant, ils n'auront jamais véritablement accès, puisqu'il s'agit d'un domaine réservé, gardé pour les hommes les vrais. L'existence de garçons trans, attirés sexuellement par les garçons, est presque complètement niée, parce que pour être vraiment un homme, C'est bien connu, on ne peut pas être un PD. Pour que leurs soins puissent être pris en charge par les protocoles officiels, les trans F2M doivent affirmer aux thérapeutes qu'ils ont toujours détesté les attributs de la féminité. Ils sont censés dénigrer leur sexe génital et surtout ne jamais avouer prendre du plaisir avec. Partout dans le monde, et pas qu'au Vatican, la possibilité qu'un individu masculin enfante est qualifié d'hérésie par les moralistes de tout genre. Elle mettrait sans doute un peu trop en question les rapports sociaux de sexe. Dès lors, on stérilise les garçons trans qui veulent changer d'état civil, alors que certaines meufs cis, qui veulent, elles, être stériles, n'ont pas accès à la ligature des trompes à cause des réserves du corps médical. En France, si une personne souhaite disposer comme bon lui semble de son corps, et uniquement si ces modifications corporelles touchent à des parties dites sexuées par cette société, il lui faut voir un psychiatre pendant 2 ans, qui attestera ou non si tu es un ou une vraie trans. En même temps, les protocoles sont établis sur le stéréotype d'une opération chirurgicale comme passage obligé et voulu par les personnes transgenres. On ne le dira jamais assez, ce n'est pas toujours le cas. Certains veulent modifier leur corps, d'autres pas, ou seulement partiellement. D'autres veulent changer uniquement leur corps en prenant un traitement hormonal. Cette non-reconnaissance du choix, cette négation du libre arbitre de l'individu, qui devenu patient devient objet, est le propre du pouvoir médical. Et c'est encore davantage le cas avec la psychiatrie, d'autant plus lorsqu'il est question d'identité de genre. Les trans sont contraints à la fois à correspondre aux symptômes qui leur permettent d'avoir accès aux soins et à la fois de passer, c'est-à-dire de correspondre à ce que l'on attend d'eux en tant que devenue femme ou devenue homme. Nulle autre identité de genre n'est possible aux yeux des psychoflics du genre. On oblige donc les personnes trans à correspondre à l'image que l'on se fait du masculin ou du féminin. Mais ces images ne sont pas neutres. Elles sont des normes qui correspondent aux présupposés culturels d'une société, d'une époque, d'une nation ou d'une communauté donnée. Il y a un siècle, en Europe, une femme portant pantalon était considérée comme travestie. Nombreuses personnes trans, aux États-Unis notamment, ont dénoncé et dénoncent le fait que les protocoles ne sont établis que pour des personnes aisées et blanches. Des médecins américains ont refusé de s'occuper de trans F2M portoricains parce qu'ils ressembleraient trop à des PD. Il est bien plus facile d'être considérée en tant que femme dite normale pour une cadre blanche habillée chez Hermès et qui a les moyens de se payer régulièrement des séances d'esthéticienne que pour une fille trans, punk, noire et prolétaire de surcroît. Parce qu'ils ne correspondent pas à cette norme parfaite du transsexuel, à ces symptômes de la dysphorie de genre, certaines personnes sont mises à la porte du protocole. Elles doivent se débrouiller pour avoir accès aux traitements hormonaux ou à d'éventuelles opérations, ce qui aggrave souvent leur précarité. Beaucoup de trans survivent dans une situation sociale précaire, aggravée parfois par l'exclusion hors du monde du travail ou de la communauté familiale. Mais même en dehors des protocoles de transition humiliants, qui sont une mainmise de plus sur les corps des personnes transgenres, l'ensemble de la médecine ne tient pas compte de la diversité des êtres humains. Elle garde une mainmise sur nos corps. Une femme trans, qui va faire une mammographie parce que ses seins ont poussé avec le traitement hormonal, sera considérée comme une frixe par l'équipe médicale. Elle ne sera pas non plus considérée et traitée comme une femme, ni même véritablement considérée comme un être humain, si elle consulte pour sa prostate. Face à elle, il n'y a souvent que mépris, méprise, méconnaissance, quand ce n'est pas juste de la bêtise crasse. Et c'est sans doute guère différent pour les garçons trans qui vont faire une consultation gynécologique. En France, comme aux USA, des personnes trans séropositives se voyaient encore récemment enlever leurs traitements hormonaux lorsqu'on leur prescrivait un traitement antirétroviral. Les protocoles et les suivis médicaux ne s'adaptent pas aux individus. Ce sont au contraire les individus qui doivent s'y adapter, s'y plier, et il en va souvent de leur survie. La plupart des psys ou des médecins, semblent plus intéressés par l'argent que par les personnes qu'ils sont censés aider. Il est très rare pour eux de se remettre en question, de remettre en cause ce qu'on leur apprend. Il est peu probable qu'ils veuillent un jour du moins sans qu'on les y presse, en finir avec ces privilèges d'experts grassement rémunérés. Alors qu'avant qu'eux aussi n'arrivent à remettre en cause ce dogme de la binarité de genre, sans doute que les coqs auront eux aussi des dents. Alors pour paraphraser une des personnes transgenres qui témoigne dans le documentaire Diagnosing Différence dont je me suis pas mal inspiré, on peut dire que l'ensemble de la société, et surtout le corps médical, nage dans un fleuve d'ignorance dans lequel les trans, elles, eux, nagent à contre-courant. Il ne suffira jamais de se prétendre spécialiste, ni d'avoir beaucoup lu sur les questions trans, pour comprendre les trans, dans toute leur diversité, dans leurs individualités. Seuls elles-mêmes, sont à même de se nommer, de se définir, de savoir ce qui est bon ou nécessaire pour elles. Pathologisées, psychiatrisées, les personnes trans doivent prouver sans arrêt qu'ils ou elles ne sont pas des malades mentaux, mais des êtres humains comme les autres. Et ce, tout en subissant un dénigrement constant, un rejet, des discriminations. Les difficultés les plus importantes auxquelles les transgenres doivent faire face sont dues au regard de la société. Devoir se conformer à la binarité de genre, subir la transphobie sous toutes ses formes, être objectifié, notamment par les prétendus thérapeutes, sont des violences réelles, qui peuvent amener mal-être. Alors que le fait de transitionner en tant que tel est plutôt une chance de survie, voire un certain épanouissement, pour qui se retrouve à faire cette démarche pour soi-même, si, du moins, l'on veut bien entendre le témoignage de beaucoup de trans. On ne peut que constater que les protocoles ne sont pas faits pour les personnes qui vont les suivre, mais en fonction de ce que d'autres ressentent et décident à leur égard. C'est une démonstration de plus de l'absurdité de la loi et du système médical. Toutefois, le danger de se battre pour la dépsychiatrisation des trans, c'est d'en arriver au final à un retour en arrière, qu'ils ne puissent plus être accompagnés du tout, qu'ils ne puissent plus avoir aucune prise en charge de soins par la sécurité sociale. Pourtant, on pourrait assez facilement imaginer un autre suivi, sans diagnostic, sans pathologisation, sans avoir à prouver une quelconque détresse ou à fournir une justification quelconque, comme ce devrait être le cas, par exemple, pour l'avortement. Mais ce qu'il faudrait, c'est surtout que la diversité des transidentités soit reconnue, et ce, indépendamment d'une quelconque intervention médicale ou d'une nomenclature psychiatrique. Alors lutter contre cet ordre établi, l'ordre des psys, des défenseurs de la nation, de la famille et des corps nationaux, lutter contre cette police du genre, c'est lutter contre ces normes, ces catégories sociales imposées, qu'il s'agisse des étiquettes psychiatriques ou qu'il s'agisse de se ranger les uns les autres dans une quelconque case, de normaliser ou d'essentialiser nos identités, nos expressions de genre. Le genre est une construction sociale. En finir avec les systèmes de genre, c'est en finir bien sûr avec la hiérarchie des genres, qui profite aux hommes cisgenres, mais c'est affirmer aussi qu'il n'y aura pas d'égalité des sexes sans la disparition des genres, en tant que rôles sociaux différenciés. Mais c'est aussi en finir avec toutes ces assignations à correspondre au masculin ou au féminin, ou même au ni l'un ni l'autre. C'est en finir avec une injonction à correspondre à une normalité, souvent celle de la norme sociale en vigueur, là où l'on vit, là où on évolue. Cette norme qui se cache derrière n'importe quelle justification, celle des protocoles psychiatriques, mais aussi de la morale psychanalytique, nationale ou religieuse, celle qui se cache derrière l'autorité d'un prétendu ordre originel ou naturel. I am a tyranny, dominatrix. I am a tyranny, dominatrix. I do it for the leather, I do it for the power, I do it for the pleasure of 250 an hour. I do it to teach boys their place. They look so cute in a collar and leash. I do it to fuck male supremacy. I worship my femininity. Yeah. Oh yeah, yeah. Que vous venez d'entendre, c'est un morceau de Shauna Virgo, donc qui est une femme trans qui donc témoigne notamment dans le documentaire Diagnosing Difference que je vous invite à regarder. Alors on va passer un peu à une spécificité des transidentités, à la spécificité intersexe. Il faut réaffirmer, grâce à la parole des intersexes, que le sexe en tant que système binaire est aussi construit socialement. Les diverses manifestations d'intersexualité et les prétendues ambiguïtés du sexe ne sont ni des maladies congénitales, ni des malformations, ni des aberrations, ni des défauts, ni des erreurs, ni des problèmes, ni des manques d'eux, ni des surplus d'eux, ni des désordres, ni des anomalies. De tels qualificatifs sont davantage indicatifs des grilles de lecture et des vifs malaises qui animent les personnes qui les emploient, au premier chef, celles qui appartiennent au corps médical. Dès la naissance, et c'est le cas d'au minimum une naissance sur 2000, si l'on relève une soi-disant anomalie d'ambiguïté sexuelle chez un nourrisson, dans l'appellation même de son organe sexuel, qu'il soit qualifié de micropénis ou de clitoris trop gros, de testicules pas descendus, incomplètes ou ovariennes, on cherche forcément à ranger le nouveau-né dans la case M ou F. Des médecins pratiquent toujours des opérations de réassignation sexuelle que l'on dissimule sous des noms à consonance scientifique, comme lorsque l'on parle d'une clitorectomie pour masquer la réalité d'une excision. Il y a des services obstétriques qui détectent la différence nommée alors malformation lors des tests prénatales, comme lors d'échographie ou de la prise d'ADN du fœtus. Ils encouragent alors la personne enceinte à pratiquer une interruption médicale de grossesse. D'autres charlatans veulent, eux, désormais prescrire des hormones pendant la grossesse pour prévenir le phénomène qualifié d'intersexualisme qui concerne un nombre croissant de nouveau-nés. De nombreux facteurs, génétiques, hormonaux, biochimiques ou même environnementaux, causent l'indétermination sexuelle. Il n'y a donc pas que deux sexes, mais une multitude de réalités niées. Un chercheur du CNRS a récemment compté 48 sexes humains à la naissance, et ce en ne comptant que les 5 grandes familles d'intersexuation recensées dans la classification des troubles du développement sexuel. Il y a donc sans doute beaucoup plus de sexes que ce que l'on croit, c'est dire cette diversité des intersexes et donc des sexes humains, considérés pourtant comme des erreurs de la nature par le corps médical et par la pensée dominante. Toute leur vie, les personnes intersexes font face elles aussi à la négation et à la pathologisation de leurs différences, de leurs spécificités, voire de leurs existences. Et elles sont considérées souvent par la médecine comme des cas d'école, des malades, des anomalies. On ne leur reconnaît pas plus qu'à d'autres l'autodétermination de leur identité de genre, qu'elle soit féminine, masculine ou intergenre. On ne leur donne pas la possibilité de choisir, de bloquer leur puberté ou de choisir le traitement hormonal de substitution correspondant au genre qu'elles choisissent. La question intersexe ne peut être que reliée au contexte social, à nos propres présupposés culturels et à l'histoire de la construction des corps de la nation, masculin ou féminin. Vincent Guillot, intersexe qui a animé l'émission Body Freaks et participe à l'Organisation internationale des intersexes, l'affirme. Je le cite, « Plus que tout, nous souffrons de ne pas exister, du fait que les médecins ne savent ou ne veulent pas nous dire franchement qui nous sommes, et modifient nos corps sans notre consentement, sans même réellement celui de nos parents, car ils sont incapables de s'avouer que nous modifier, c'est se projeter en nous. La question intersexe est avant tout épistémiologique. Elle s'inscrit dans l'histoire de la médecine, dans celle de l'assujettissement des corps non masculins, et de ce fait, elle échappe au questionnement des médecins, qui ne s'interrogent que sur leur technique, au lieu de s'interroger sur l'histoire médicale de l'intersexualité et sur le rapport qu'ils entretiennent avec leur propre corps sexuel. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy.
Des chaînes Radio Galère. Alors, c'était Anthony and the Johnson, For Today I Am a Boy. Et donc, on va un peu partir, pas vraiment changer de sujet, mais regarder ailleurs, on va dire, et s'intéresser un peu à la transidentité en Asie mineure, en l'occurrence en Iran et en Afghanistan. Qui sont deux pays qu'on peut dire un peu proches culturellement, dans le sens où c'est deux pays perses et qui parlent la même langue, enfin plus ou moins. Et ça m'intéressait. En fait, je suis partie là-dessus parce que l'Iran est un pays assez réputé pour avoir, pratiquer beaucoup d'opérations de réassignation de sexe, de genre. Et du coup, je me suis intéressée un peu à ça, et voilà un peu ce que j'ai essayé d'en tirer. Donc, en Iran, régulièrement, au sein des couples homosexuels, un des deux hommes, une des deux femmes, va transitionner vers l'autre sexe. Cela va leur permettre de vivre ensemble, de se promener dans la rue, désormais en conformité avec la loi iranienne. Qui veut qu'un homme aille avec une femme avec un homme, et qui punit l'homosexualité de peine de mort. Cela va leur permettre de vivre en conformité avec la loi, même avec celle des mollahs, mais pas avec la société, pas avec leur famille, en tout cas pas toujours. Considérés comme des pervers, ils et elles sont parfois victimes de tentatives de meurtre au sein même de leur famille, et en général dans la rue de regards malveillants, d'insultes, de viols aussi parfois. C'est donc une transition à la fois désirée pour pouvoir vivre et contrainte pour ne pas se faire tuer. Une transition, la transgression d'un tabou, pour pouvoir rentrer dans le rang et ne plus avoir peur de se faire contrôler, arrêter, emprisonner, lapider. Bien sûr, parmi les Iraniens et les Iraniennes qui ont transitionné ou qui souhaitent le faire, certains et certaines se sentaient ou se sentent du genre qu'ils n'ont pas, ou elles n'ont pas. Mais pour d'autres, homosexuels ou hommes trop efféminés, au regard des normes iraniennes, la transsexualité est une contrainte et beaucoup affirment qu'il ou elle n'aurait pas transitionné si il ou elle n'y avait pas été obligé. Une d'entre elles dit d'ailleurs « Mon seul vœu, c'est de m'arracher de ce pays pourri. Aller là où on m'appellera soit monsieur, soit madame, peu importe, mais que je sois libre. » Une autre explique « Je suis allée voir plusieurs docteurs. Je leur ai dit « Peut-être que j'ai des problèmes psychiatriques. Peut-être que je peux guérir. » Je leur ai raconté mes relations sexuelles avec les garçons. Je leur ai demandé s'il était possible de redevenir un homme dans ma tête. Ils m'ont tous dit que c'était impossible et qu'il fallait changer de sexe. Alors voilà, après avoir lu sur la transsexualité en Occident, après avoir écouté des témoignages de transsexuels occidentaux, je ne sais plus devant cette personne que j'ai appris à qualifier de transsexuel M2F si je dois dire il ou elle. Si son corps, si leur corps à ces homosexuels contraints de transitionner en Iran, si leur corps sont incontestablement transsexués, est-ce que ils et elles sont des transsexuels ? Ou sont-ils et elles le produit d'un ordre établi qui leur a inculqué en profondeur l'hétéronormalité comme valeur essentielle ? Car dans les témoignages qu'on a écoutés à NDChen, on a entendu parler d'identité. Le corps étant vécu comme en inadéquation avec cette identité chez les M2F et les F2M. On a aussi entendu parler d'identité chez les F2X. Mais régulièrement, en Iran, la question est celle de la sexualité, non pas d'identité. Une sexualité illégale. Certains, ne se sentant pas femmes malgré leur nouveau corps, tolèrent mal leur nouveau rôle social. Ils courent alors le risque d'être maltraités en tant que femmes qui ne respectent pas ou pas assez les préceptes religieux et ou traditionnels. Certaines n'ont, après l'opération, plus de plaisir sexuel pour des raisons liées à la chirurgie, qui ne cherchent pas à conserver l'érogénéité, alors je doute de l'érogénéité, mais le côté érogène, lors des opérations de réassignation. Peut-être aussi pour des raisons plus intimes, celle par exemple de ne pas se sentir bien dans ce nouveau corps qu'on n'a pas choisi tant que ça. Pour elles, pour eux, le coup est dur. Elles échangent une sexualité homosexuelle prohibée mais jouissive contre une sexualité hétéro, parfaitement acceptée par la société, mais sans plaisir. Partons en Afghanistan. Donc en Afghanistan, c'est une autre tradition, la tradition des bachapoches, qui permet aux parents de travestir leurs filles dès leur plus jeune âge, c'est-à-dire vers 3-4 ans, afin qu'elles puissent se déplacer dans la rue sans escorte et travailler, et ainsi contribuer à nourrir leur famille. Dans cette société où les rôles de genre sont ultra codifiés, ultra normés, où la sphère publique est réservée aux hommes, où tous les commerces, sans exception, sont tenus par des hommes, où donc les seules professions accessibles aux femmes sont celles de professeurs dans des écoles de filles ou les professions médicales, mais uniquement pour soigner des femmes, certaines de ces petites filles décideront à l'adolescence de rester des hommes. Pas pour le genre, mais pour la liberté, explique une jeune afghane. Bien sûr, il n'est pas ici question de traitements hormonaux, encore moins d'opérations de réassignation. La situation économique des familles, la situation sanitaire du pays, le poids de la religion et des traditions ne le permettent pas. Mais il me semble que cela dépasse le simple travestissement. Alors, travesti, transgenre, transsexuel ou simplement transgressive ? Pour essayer de répondre un peu à cette question, on va écouter des témoignages. Alors, il y a deux témoignages qui suivent. J'explique un peu parce qu'il y a plein de personnes qui interviennent. Donc, c'est d'abord le témoignage d'une bachapoche qui est restée bachapoche, qui a 25 ans, qui s'appelle Bilkis alias Jacques, et de ses parents. Et ensuite, il y a le témoignage de Naïd, qui a 19 ans, qui est une ancienne bachapoche, c'est-à-dire qui a été élevée en tant que bachapoche, mais qui, à l'adolescence, est redevenue une femme, de sa mère et de son amie Zoura. Oh,
Quand j'étais petite, je voulais être un garçon aussi. Non pas à cause du genre, mais pour la liberté.
Dès l'âge de 3 ans, je l'ai habillée avec des vêtements de garçon. Oui, c'est ça, elle n'avait pas plus de 3 ans. À l'époque, j'avais une admiration pour Jacqueline Kennedy. Alors je lui ai donné le surnom de Jack, son nom de garçon. Elle est devenue le fils de la famille parce que je n'avais pas de fils aîné. Il fallait quelqu'un pour s'occuper de la maison, réparer le générateur, enlever la neige du toit, aller faire les courses au bazar. Jack faisait tout ce qu'un garçon fait normalement, parce que, en Afghanistan, les familles ont besoin d'un fils plus que d'une fille. Les filles ne peuvent rien faire.
Elle aimait s'habiller en garçon. Et après, elle était comme habitée par ses vêtements. Elle se comportait en garçon. Mais quand les talibans sont arrivés, c'était trop dangereux. J'ai voulu qu'elle change, j'ai essayé. Je l'ai même battue pour ça, mais elle ne m'a jamais écoutée.
Je me sens vraiment bien dans ces vêtements d'homme. Je suis libre, je peux conduire, aller faire des courses. Si je m'habille en fille, je ne pourrais rien faire de tout ça. Mais je vis avec la peur, celle qu'on découvre qui je suis vraiment, une fille et pas un garçon. Et là, je pourrais avoir de gros problèmes. Parmi mes 3 sœurs, une est mariée, une autre va se marier bientôt. Et je sais que moi, je resterai seule. Mais même si parfois je me sens seule, même si c'est difficile, je préfère cette vie.
C'était il y a 3 ans. Ouais, c'est ça. J'avais 16 ans.
Et c'est toi qui as décidé de changer ?
Non, je n'ai jamais décidé moi-même de changer. C'est la société qui m'a obligée à changer.
Et maintenant, tu te sens bien ?
Je me sens plus à l'aise dans le sens où les gens ne me jugent plus, ne m'insultent plus. Mais je n'aime pas ça. J'étais bien dans ma peau quand j'étais bacha poche. J'étais libre comme un garçon.
Être une bacha poche, ce n'est pas mal en soi. Je n'avais rien contre. J'ai autorisé ma fille à vivre comme elle le souhaitait, du moment qu'elle se comportait bien, du point de vue de la morale.
Jusqu'à ce que les gens me posent problème. Quand ils te demandaient si j'étais une fille ou un garçon.
Oui, les gens me disaient qu'il fallait changer. Mais rien n'a vraiment changé. Elle pense comme un garçon, elle ressent les choses comme un garçon. Tout ce qu'elle veut faire, c'est ce que font les garçons. Aller dehors, travailler, elle fait des économies pour être indépendante et pour pouvoir étudier.
Et tu voudrais te marier un jour ?
S'il y a bien une chose que je déteste, c'est le mariage.
Et vous voulez qu'elle se marie ?
Ah oui, avec un bon garçon.
En Afghanistan ?
En Afghanistan, bien sûr. Et rapidement, car sinon après, elle sera trop vieille. C'est comme ça, l'Afghanistan. Elle n'a pas de frère, pas de père. Elle doit subvenir à ses besoins.
Quand j'étais petite, je voulais être un garçon aussi. Non pas à cause du genre, mais pour la liberté.
Je voulais vivre comme un garçon,
m'habiller comme un garçon
et surtout jouer au foot comme eux. Quand tu es une fille, tu dois demander pour tout. Demander à ta mère et à ton père pour tout et n'importe quoi. Et la plupart du temps, la réponse est non.
Je veux être un garçon.
pour faire ce que les garçons ont le droit de faire.
To do things that boys do.
Pas pour le genre, mais pour la liberté. Dans un pays où les femmes ne peuvent pas sortir si elles ne sont pas accompagnées d'un homme, fût-il un garçon de 4 ans, ou alors caché sous une burqa, la plupart du temps les deux, c'est un désir facile à comprendre. Mais on entend aussi être bien dans sa peau de garçon, penser comme un garçon, ressentir les choses comme un garçon. Alors, travesti, transgenre, transsexuel ou simplement transgressive. Les bachapoches, et celles qui l'ont été, occupent une place singulière dans la société afghane où les hommes et les femmes ne se parlent jamais, ou presque. Ou dans les maisons, les femmes mangent entre elles, les hommes entre eux. Ou les écoles ne sont pas mixtes. Ou finalement, il n'y a pratiquement pas d'endroit mixte, à l'extérieur comme à l'intérieur des maisons, à l'exception de la chambre à coucher des personnes mariées. Les bachapoches, mais aussi les anciennes bachapoches, qui sont redevenues des femmes mais qui ont gardé de leur enfance de garçon une certaine aisance, font alors partie de celles qui parlent aux hommes, de celles qui osent publiquement parler des femmes, de leur enfermement quotidien, de celles qui dénoncent publiquement la cécité future de toutes les adolescentes contraintes à regarder au travers de la grille de leur burqa, ou des meurtres par leur propre famille, d'autres adolescentes qui auraient de ci, de là, échangé quelques mots avec un garçon. Si avoir été bachapoche ne sera jamais reproché à une femme afghane, le demeurer après la liberté n'est pas sans danger, d'autant que c'est un péché. Elles sont souvent victimes d'insultes, de menaces et d'agressions. Pourtant, en Afghanistan, on ne peut pas vivre en dehors de sa famille. Sous un même toit, par nécessité, se regroupent la plupart du temps plusieurs générations. Parfois, plusieurs cellules familiales, des cousins, oncles, frères, leurs femmes et leurs enfants. On ne s'échappe pas de sa famille, de son village pour aller vivre sa vie à Kaboul. Il est nécessaire à la survie de l'individu de continuer à vivre dans le groupe. Et en Afghanistan, c'est impossible de changer de groupe. Celles qui décident de rester bachapoches ne peuvent finalement le faire qu'avec l'accord de leur famille. Et aussi un certain assentiment de leurs voisins et des habitants du village. Certaines bachapoches sont même très respectées, comme Oukmina Manouri, ou comme Khan, de son prénom d'homme, élue au conseil de sa province et admise à y siéger habillée en homme. Ou presque vénérée, comme la légendaire Bad Guy, qui dans les années 1930, s'est habillée en homme pour aller réclamer au nouveau roi le corps de ses deux frères, tués par son prédécesseur. Et qui, de retour dans son village, restera habillée en homme et vivra comme un homme. Alors voilà, j'en étais là de mes réflexions et je me disais que ben, les bachapoches, en Afghanistan, on en parle toujours au féminin. Et moi, je ne savais plus si c'était des il ou des elle, comme je disais tout à l'heure à propos de cette transsexuelle iranienne. Et du coup, je me disais que, comme on l'a vu au long de cette émission, les grilles de lecture qui nous sont proposées pour parler de transsexualité et de transidentité sont déjà bien trop fermées, bien trop petites pour comprendre la transidentité en Occident. Et que du coup, elles semblent en tout cas encore plus étriquées pour parler de la transidentité ailleurs et comme j'ai essayé de le faire aujourd'hui, notamment en Asie mineure. What kind of people would let people drown in their lungs? Bury their daughters and sons down in the mud. Place the blame with the fortunate ones. This ain't a maiden prophet from AIDS and orange. Spray Vietnam when they bomb. Mutations for generations in places that they bomb. But escape to the States to evade law. Like December 3rd, 1984. 40 tons of lethal gas leak from a factory in Bhopal. Safety catches turned off by the company boss. More than 20,000 dead and negligence was the cause. And 100,000 more were injured and still
born. And the rat fuck the blame for it all. Ain't never had a day in court. Private jets take off and arrive in the US. But they send it a bomb threat if you harbor a terrorist. Body count of Bin Laden times 10. Got $1 million house in the fucking Hamptons. And his name is Warren Anderson. From the CEO to composition of chemicals that choke victims in their hospital beds. They begged for Mr. Anderson to put a stop to the death. He was responsible but non-responsive. Didn't choose to save people. Lucifer knew the truth but he called it a trade secret. Flew the coop and touched glue and paid off the bail easy. Supposed to be in hiding but thanks to the DMV, the location of a snake, then it's still public information. Got with any car registration so you ain't hard to reach. Running out of State Department, no justice, no peace. For the butcher up a ball and all killer companies. RSVP for the cocktail party. I've seen your RSVP to 111 South Catalina Court, Vero Beach, Florida 32963. That's primary residence. Calling all cars, calling all cars. This is an APB mass murderer at large. Be on the lookout for a black Cadillac with the white man inside, sitting on big stacks. Yeah, calling all cars, calling all cars. This is an APB mass murderer at large. Give the dead rest, give victims the truth. Or don't get upset when chickens come home to roost.
He's got a lot of houses, man. He's got another one at 4 South Shore Drive number 6 in Greenwich, Connecticut, 06830. If you're looking for his mailing address, that's 6001 North Highway A1A PMB 8091, Indian River Shores, Florida. Send him a love letter. Send him a love letter. Send him a love letter.
Them worship the devil, them worship Satan. Them worship the devil, them worship Satan.
Your hands are filthy. You fucked me, fucked my workers, and that's it. You think you're doing good, but you're an information terrorist. I'm sorry to tell you. Not no more. It's not no more. It's fool. If you had any dignity, that website would be taken down tomorrow.
Parler des spécificités des politiques nationales de traitement de la question trans, comme de la question de l'égalité des sexes ou de celle des orientations sexuelles, ne doit en aucun cas nous servir à opposer un Occident éclairé où tout serait rose pour les trans, les femmes, les intersexes, les homos, à un ailleurs forcément horrible, sombre, nécessitant une quelconque intervention, humanitaire ou militaire. L'idéologie de la nation coloniale française, traditionnelle et multiséculaire, s'est construite et consiste à considérer que l'homosexualité ou le travestissement sont des décadences de la civilisation, des déviances, des maladies sociales. Une famille européenne normale, modèle, de bons citoyens, doit être chrétienne, de préférence catholique, blanche, patriarcale et hétérosexuelle. Sexuelle, certes, mais de manière normée, civilisée. Pas de manière bestiale ou ostentatoire. Ailleurs, on considère que les mœurs ne sont pas civilisées, que l'homosexualité, le travestissement, les changements de sexe ou de genre n'existent pas d'ailleurs, que le sauvage a une hétérosexualité bestiale. Il faut donc pour le colon, l'esclavagiste ou le prêtre, protéger les femmes, la femme blanche bien sûr, mais aussi les femmes noires ou non blanches, qui doivent se mettre au service de l'empire colonial ou de la nation. Quelques années après, comme pendant les indépendances, ces mythes ont été démontés. Ils ont été dénoncés par les études postcoloniales, par des chercheurs loin d'être tous des hommes blancs, mais aussi grâce aux combats et grâce aux témoignages qui se sont fait entendre partout dans le monde. Alors l'ironie du sort veut que des non-blancs, eux aussi, y compris dans les pays anciennement et toujours quelque part colonisés, se mettent à leur tour à dire que l'homosexualité ou le changement de genre, le troisième sexe, n'existe pas chez eux. Que ce serait forcément une décadence de la civilisation occidentale et donc des personnes qui cherchent à la copier. En France, on voit même des personnes issues de l'immigration et de la colonisation se joindre au QBNI de l'Opus Dei, à ses anciens partisans de l'Algérie française ou aux tenants de la préférence nationale pour réclamer la défense de la famille, des stéréotypes de genre, de la maternité et du rôle du père. Travail, famille, patrie, religion. Alors qu'au nom d'une morale laïque et républicaine, pendant qu'on organise la chasse aux Roms et aux migrants, on sanctuarise l'école. On vote des lois pour enlever le voile aux étudiantes et aux mères d'élèves, comme au bon vieux temps des cérémonies de dévoilement organisées en Algérie par Papa de Gaulle, grand défenseur de la cause des femmes. Qu'aujourd'hui, dans une partie du monde, on cherche à intégrer, à normaliser l'homosexualité et les transidentités, est certes plus souhaitable que le retour au bûcher, à la peine de mort, au fouet, à la lapidation ou à la prison. Mais nous ne voulons pas plus être normalisés que pathologisés. Encore moins s'il s'agit d'être utilisé pour alimenter les constructions d'une nouvelle image de l'identité nationale ou de la démocratie occidentale, de cette Europe éclairée, de cet Occident donneur de leçons. Nous ne voulons pas servir de faire-valoir à un quelconque modèle de société, à une cause nationale ou à une cause partisane. Pas plus que nous ne voulons servir de bouc émissaire à des crétins qui n'ont pas encore compris les différences entre sionisme, féminisme, franc-maçonnerie, homosexualité ou judaïsme, et dont certains n'hésitent d'ailleurs pas à ratonner, indifféremment, les trans, les roms, les massissi, les travelots, les bougnoules, les feuges, les mibouna, les négros, les pédés, les antifas, les trainees, les carlouches, les putes, les yassis, les gitans, les carbas, les mibouna. Envers et contre tous les tenants des ordres moraux de tout genre, partout dans le monde, des communautés, des individus, assimilés aux transgenres ou aux intersexes, aux gouines ou aux PD, se définissent elles-mêmes, par elles-mêmes, pour elles-mêmes, avec leurs spécificités, leurs propres mots, dans leur propre langue, leur propre culture. Toutes et tous luttent aussi à leur manière pour leur autodétermination contre l'oppression. Les décrets législatifs, les principes internationaux ou les querelles de chapelle n'y changeront rien. Nous existons et nous existerons et nous nous battrons pour exister.
The lifestyle that I have, they call it a sickness. But I am healthy and I am a living witness. Trying to single me out, but I fucking stand out. Fly, unique, and vocal from my mouth. Since I was young, I've been called all types of names. Fag, girl, cunts, everything. Niggas didn't want to be my fucking friend, cause they thought that I just want to put it in. Not true, they didn't have a clue on what I wanted to do. Just a homeboy to you, to disrespect my name and call me a disease, and say that all gays got STDs, and we like to get on our knees. And you believe that? Child, please. They stereotype everything that we do, over and over through the breaking news. One Mississippi, two Mississippi, three. You gotta calm down, Lonnie B. I'm sick of this shit, you weak mind bitch. Just because I'm attracted to another dick and I'm insane, you wanna call names? Do you feel this? My fucking pain. In the long row, in the thunder and rain, hearing threats, lies, rumors over again. Preparing myself for this fucked up world. To all my guys living their lives as girls, a vampire life only come out at night, because they not accepted in the bright light. Walking dark alleys with flashing lights, 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 lights. It's frustrating to the fucking brain. We look for a cure so we try cocaine, thinking that shit gonna ease the pain. Overdose, one more drop the gain. What am I to do? I don't have a clue. No one loyal that I can run to. They won't come near, cause it's me they fear. All of this heartaches, I keep sharing tears, asking myself, do I really wanna live? Live, 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 live. It's hard to be accepted in this fucking game, cause my sexuality have a no lane. Radio won't play my fucking jam, cause they feel like I'm not part of the fam. It's crazy and stressful, so we go to the pole, cause the government keep telling us no.
We ain't hiring today. Come back when you're not gay. Damn, daddy won't accept my life. Mommy rolling with me in this fucking fight. Trying to ease up the pain while I'm playing this game. Striving for my goals so I can make it rain. Damn, daddy won't accept my life. Mommy rolling with me in this fucking fight. Trying to ease up the pain while I'm playing this game. Striving for my goals so I can make it rain. Hey, do I really wanna live? Hey, do I really wanna live? I keep sharing these fucking tears. Myself, do I really wanna live? Radio won't play my jam. Radio won't play my jam. The radio won't play my jam. Because they feel like I'm not part of the fam. What am I to do? What am I to do? I don't have a fucking clue. What am I to do? What am I to say? What am I to say? They don't love. Because I'm gay, I got an STD. Because I'm gay, they won't hang with me. Because I'm gay, I'm not family. Because I'm gay, God don't see me. Radio won't play my shit. Radio won't play my shit. Radio won't play my shit. Because I'm not Biggie, I ain't gangsta, bitch. Radio won't play my shit. Radio won't play my shit. Radio won't play my shit. Because I'm not T.I., I'm not gangsta, bitch, but I'm a proud gay boy. I'm a proud gay boy. I'm a proud gay boy. You can't play me like no fucking toy. I'm a proud gay boy. I'm a proud gay boy. I'm a proud gay boy. You can't play me like no fucking toy. Radio won't play my shit. Radio won't play my shit. Radio won't play my shit. Because I'm not 50, I ain't gangsta, bitch. Do I really wanna live? Do I really wanna live? Do I really wanna live? Hell yeah, cause I have no fear.
Alors voilà, nous avons rarement été aussi près de l'actualité sur ND Chaîne. Et oui, quand surgit du fond des ténèbres la crainte de Sodome et Gomorre ou l'imminence de la réouverture de la chasse aux sorcières, où le plus enfoui des fantasmes se mélange aux peurs les plus profondes. Alors il semblerait que la remise en question du genre en fait remettrait en question l'espèce. Plus qu'une remise en question, même une mise en danger de l'espèce humaine. Comme si le monde se mettait à tourner à l'envers, comme la Terre allait redevenir plate avant Armageddon, Armageddon tant annoncé, et enfin l'humanité disparaîtrait. Alors vu le nombre que l'on est sur cette planète, c'est pas sûr que ce soit vraiment la question qu'il faille se poser, mais dans tous les cas, avant cela, quoi qu'il arrive, nos enfants stériles deviendront trans pédéguines, queer butch drag queen ou drag king, et de masturbation scolaire en décadente adolescence, ils regarderont s'éteindre la famille. Alors, toute cette histoire, parce qu'à l'école, maintenant, on va dire aux filles qu'elles peuvent jouer au foot. Alors ça, c'est déjà difficile à avaler pour certains, on le sait. Mais aussi que les garçons peuvent, s'ils le veulent, jouer à la poupée. Et cela, ça ne le fait pas vraiment. Mais en fait, c'est tout, car rassurez-vous, on ne leur parlera pas de dysphorie de genre, d'androgynie, d'intersexe, pas plus que de bisexualité, de triolisme, ni d'hédonisme, ni de bondage. On leur parlera sport, mécanique, cuisine, couture, pour au final avoir la liberté la plus totale d'aller chercher du travail plus tard. Mais trêve d'actualité, le sujet pour ND Chaîne, c'était la transidentité, donc les transgenres et les transsexuels et autres transgressions. Car on l'a bien vu, c'est pas la même histoire pour tout le monde, contrairement aux clichés. Déjà, ce n'est pas forcément sexuel. C'est pas en soi identitaire, mais obligatoirement un peu quand même. Mais c'est souvent genré, correspondre à un genre, genre M ou F. Souvent, c'est briser des chaînes pour en enfiler d'autres. Et c'est pour ça que cela nous intéressait et qu'on voulait réfléchir. Car avant d'en enfiler d'autres, des chaînes ou pas, eh bien, il faut déjà briser les siennes. Et là, c'était aussi un peu les nôtres. Car elles sont bien là, ces chaînes dont on nous habille dès tout petit. Les chaînes du genre que l'on nous donne et dont souvent on ne veut pas. mais enfin tous un peu. Les hommes qui d'évidence ont la place de choix, indéniablement, eh bien doivent se donner un genre, correspondre et sévir. Viril, fort, courageux, faisant charivirer le cœur des femmes, eh bien voilà un costume en soi pas facile à porter en toutes circonstances. Et de souvent se dire que je n'ai pas toujours réussi à être un homme, un vrai. Ou pour les femmes, place nettement enviable, on le sait aussi, qui doivent correspondre elles aussi et servir. Belle avant tout, pour plaire aux hommes, attentionnée, effacée, mais pas trop, fertile et bonne mère. Voilà un tablier encore moins facile à porter, et dont on n'a forcément pas envie. Et puis sinon, il y a ceux qui, dès le plus jeune âge, disgenrent ou dérangent un peu, beaucoup voire. Gentiment appelé garçon manqué pour une fille ou garçon efféminé, mais dans les deux cas, un garçon mauvais genre. Ou plus crûment, mais si souvent, une camionneuse, une pédale. Et déjà, le genre commence à faire des dégâts, parfois irréparables, mais certainement irréfutables. Du cisgenre que l'on genre et l'on formate, au disgenre qu'on moque, maltraite, insulte et parfois assassine. Alors que le genre, s'il devait y en avoir, il n'en aurait qu'un, le genre qu'on se donne, et il peut pour le coup être des milliers. Genre dur à cuire, genre sympa, genre punk, genre premier de la classe, fils à papa, bien sous tout rapport, gothique déprimé, caïra, ou genre de ne pas y toucher, tous sexuellement compatibles. Ah, mais ce serait trop facile de reléguer cela à ça, car la réalité du rapport homme-femme est bien, bien plus compliquée. Car les rôles distribués au genre ne sont pas de l'obscurantisme philosophique, mais bel et bien un système de domination. La domination de l'homme sur la femme, qui de fait inclut toutes les autres. Et c'est pour cela, et que non pas la théorie des genres, mais la réalité des genres, trouve autant de défenseurs, les hommes, et souvent leurs dociles femmes. Car elle n'est pas indépassable, la réalité des genres, mais son dépassement est indésirable, car elle fait tourner la bête. Alors quant à imaginer que chez nous, antisexistes, trans, gwyn, pd, femmes, hommes, il n'y aurait plus de cette réalité genrée, eh bien c'est se mettre un doigt dans l'œil. Car de gays phallocrates aux lesbiennes et séparatistes, hétéro-homophobes, féministes transphobes ou trans-bon genre, de la soumission par désespoir de cause de beaucoup d'entre elles aux attitudes de domination masculine de la plupart d'entre nous, quand même par sympathie on a son PD de service, quand finalement les trans, eh bien ça nous fait rigoler, tous ces gestes aussi graves que banals que l'on retrouve partout et ne nous épargne pas. Mais au-delà du et des témoignages que l'on a voulu vous faire entendre, pour, en reprenant une des phrases de Wilma, plus il y aura d'infos, plus il y en aura des trans. C'est pas compliqué. Alors afin que chacun ait les moyens de trouver des réponses à ces questions et de choisir en conséquence, c'est pour cela qu'on a voulu en parler. Et sinon, en plus, tout simplement, c'est pour dire toute notre solidarité dans ces combats difficiles à toutes celles et ceux qui luttent, car nous tous cisgenres, qui ne nous posons finalement jamais vraiment la question, ou alors plus ou moins avec cette interrogation moqueuse, mais pourquoi il ou elle, elle a fait ça? On voit bien que c'est un homme, elle se ridiculise. Puis il y a des endroits pour les gens comme ça, aïe aïe aïe. Là ça commence. Et on ne se rend même plus compte à quel point nous sommes genrés et rangés, comme assignés à notre genre, y assignant tous les autres. Alors un homme ça a des shorts et ça se tatoue, et bien des femmes aussi. Les femmes ça porte des jupes et ça se maquille, bien les hommes aussi. Et là clairement ce n'est pas sexuel, ce ne sont que les dress codes, les uniformes que chacun de nous portons et reconnaissons. Alors comme je disais, c'est pour dire toute notre solidarité dans les combats difficiles, dans ces combats difficiles, combats d'une minorité qui se bat ici et beaucoup ailleurs, simplement pour le droit d'exister, de ne pas être pourchassé, traqué, tyrannisé, moqué, battu et assassiné. D'une minorité qui se bat aussi pour les autres, contre l'hétéronormativité, contre l'homophobie, contre les violences faites aux femmes et tous les ravages du genre, qui, de réflexion en remise en question, bouscule nos idées figées sur des questions à peine abordées, coincées dans des différences à peine envisagées. Le sexe, mâle, femelle, le genre, masculin, féminin, l'identité homme-femme. Le monde, notre monde, serait-il aussi binaire? Notre imaginaire, nos désirs seraient-ils aussi binaires? Ou seraient-ce nos maîtres, d'école et d'autres, qui nous voudraient si binaires? Alors voilà, parler de ce sujet, c'était parler aussi de tout ça. Et tout ça, ça nous a plu. Donc encore une fois, toute notre solidarité avec les transgenres, les transsexes et toutes celles et ceux qui ont le courage d'affronter l'un des piliers de cette société castratrice. Intersexe, intergenre, sans genre ni sexe, d'affronter un des tabous de cette société matrice. Et juste pour conclure, je dirais que le dépassement du genre est possible, oui. Et pour cela, comme bien souvent, il faut le détruire. Et c'est dès aujourd'hui. Certains et certaines essayent déjà.
dream of dreams. Forever.
Voilà, allez, ciao, ciao, ciao.